Nous allons débuter ce séminaire sur le phénomène révolutionnaire, toujours un des séminaires dans le cadre du contrat de droit politique avec l'Agence nationale de la recherche, qui fait partie de notre programme de 3 ans. Et je voudrais remercier donc très chaleureusement nos intervenants, à savoir Michaël Zifaras, professeur à Sciences Po, Frédéric Audren, également professeur à Sciences Po, François Saint-Bonnet, professeur à Paris 2, Armel Ledivelec, professeur à Paris 2, Denis Baranger, également professeur à Paris 2. Nous attendons la venue d'Emmanuel de Varesquiel, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et puis, je souhaiterais également remercier ceux qui sont présents, et notamment, je ne peux pas tous les citer, mais Anne Simonin, Guillaume Glénard, Arnaud Lepilouer, Sébastien Roland. Pour ce séminaire que nous allons donc tenir selon les règles de l'exercice, à savoir que nous aurons deux sessions de très libre débat, la première pendant laquelle ce sont les intervenants qui prendront la parole, et la deuxième session après une petite pause, lors de laquelle la salle sera invitée également, si elle le souhaite, à participer à nos débats, sachant que les contraintes à cet égard donc, sont tout à fait minimales. C'est simplement de la part de ceux qui souhaitent intervenir de se signaler à moi-même, coordinateur ou modérateur, je ne sais pas trop. Ah, je ne me suis pas moi-même signalé, donc Carlos Pimentel, professeur de droit public à Versailles, qui va essayer de modérer ces débats. Et puis la deuxième règle qui est d'éviter les apartés et de façon à ce que la discussion reste en permanence collective. Ces débats sont enregistrés et sont susceptibles de faire l'objet d'un podcast publié en ligne. Tout participant est évidemment en droit de demander que tel ou tel passage soit finalement coupé ou de s'opposer en tout cas à la publication. Ça nous semble une règle de savoir-vivre assez élémentaire en la matière. Voilà. Alors nous testons, selon les séminaires, différentes méthodes, différentes manières de procéder, plus ou moins directives, semi-directives, pas directives du tout. Et là, on va en tester une, qui est peut-être d'ailleurs très ambitieuse compte tenu de la teneur des questions qui ont été posées, mais nous avons proposé à nos intervenants à la fois une série de textes et puis d'articuler la réflexion autour d'un ensemble de questions sur lesquelles on essaiera de trouver des éléments de réponse. Si on n'en trouve d'ailleurs pas, on n'est pas forcé de s'estimer contraint de répondre, mais sur un certain nombre de questions qui nous a paru souhaitable d'envoyer à l'ensemble des participants un petit peu à l'avance. Puis on verra comment on parvient à progresser et dans quelle mesure cette méthode est efficace, sachant que compte tenu du temps très bref dont nous disposons, je doute très fortement que nous allions jusqu'au bout de la série des questions qui ont été posées, mais ça fait partie des incertitudes de l'exercice. Alors, si on a souhaité organiser ce séminaire dans le cadre du contrat ANR, c'était en partant de l'idée qui avait été formulée par François Furet, à savoir celle sur laquelle la Révolution française est un phénomène qui ne s'arrête absolument pas avec Thermidor ou avec Bonaparte, mais c'est un phénomène qui dure, selon lui, un siècle, jusque vers 1880, de manière continue. Et il y aurait, à cet égard, une spécificité française par cette espèce de récurrence périodique du phénomène révolutionnaire qu'on pourrait opposer aux exemples anglais ou américains dans lesquels l'onde de choc d'une révolution est finalement absorbée dans des délais plus brefs. D'où une formulation de la question, j'ai été tenté de reprendre dans un autre contexte une citation de Paul Venn, mais comment peut-on se mettre dans des états pareils? Et comment surtout peut-on se mettre dans des états pareils aussi longtemps? À partir du moment où on renonce aux explications de type marxiste sur la nécessité historique des révolutions, la question se pose sous un autre jour. Comment est-il possible que ce syndrome révolutionnaire ait duré aussi longtemps? C'est-à-dire aussi pourquoi est-ce que les institutions françaises sont restées aussi longtemps impuissantes à résorber la fracture qui est née de la révolution et à parvenir à un compromis minimal qui permette aux deux camps hérités de la tourmente révolutionnaire, de cohabiter de manière à peu près pacifique. Voilà en gros la problématique d'ensemble du séminaire d'aujourd'hui, avec cette première question, déjà, qui est une espèce de question préalable. Est-ce que les uns les autres, est-ce que les intervenants sont d'accord sur cette façon de poser le problème, et est-ce qu'il y a en effet une exception française très claire à cet égard qu'il conviendrait donc d'opposer à ce qu'on a pu voir dans l'histoire des États-Unis ou dans l'histoire anglaise. Frédéric Audren.
Alors, j'en profite pour remercier cette invitation. Je ne suis pas vraiment, je suis tout chargé de recherche au CNRS, puisque professeur.
Ah pardon.
Pas les deux, dirons. Alors, ma position sera, je dirais, plutôt en rupture avec cette façon de, je pense, de présenter cette perspective telle qu'en tout cas elle est annoncée dans toute cette petite note, ce canevas, pour une raison simple, c'est-à-dire contrairement à ce que semble indiquer, j'ai bien l'impression que Marx, en définitive, très présent, même dans la note que tu présentes. Et je me réjouis de voir que Marx a pénétré même l'Institut Michel Villette. Pour une raison très très simple, c'est que il me semble que le canevas, et je pense la problématique générale du séminaire, inscrit l'idée de révolution comme celle de la révolution pour prendre le pouvoir. Donc en définitive, dans une perspective très marquée par une forme d'institutionnalisme, sur les enjeux de l'institution, de la prise de l'État, la prise de pouvoir de l'État, etc. etc. Et donc en quelque sorte, parmi ce projet, me semble marquer une sorte de généralisation de l'idée marxienne ou marxiste de la révolution comme processus de prise de pouvoir. Or, j'aurais tendance à dire que je ne partage pas complètement cette idée, à savoir que j'aurais plutôt tendance à concevoir l'idée de révolution plutôt comme un processus autonome, comme un processus où se crée une sorte d'espace propre qui bouleverse en quelque sorte le paysage commun, et qui, en quelque sorte, dépouille le pouvoir, qui le met à nu, donc qui pose le pouvoir comme étant à prendre. Mais en définitive, ça ne me semble pas forcément la priorité de l'idée révolutionnaire. Ce qui me semble la priorité de cette question-là, c'est plutôt dépouiller le pouvoir de son privilège, mais ce n'est pas forcément en prendre le pouvoir. Ce qui signifie une chose, c'est-à-dire que la question révolutionnaire ne me semble pas se présenter du point de vue de la représentation. Ce n'est pas la notion qui me paraît la plus centrale, non pas sur la question qui place en quelque sorte la question de la représentation au cœur du débat, mais plutôt ce qui me semblerait le point central, enfin ce qui me paraît central dans la question du phénomène révolutionnaire, c'est-à-dire la capacité de l'articulation, la capacité d'articuler des projets complètement hétérogènes pour mettre à nu justement cette question de la légitimité ou en quelque sorte de dépouiller le pouvoir de ses privilèges. Donc, enfin, pour le dire tout simplement, il me semblait qu'il y avait cette présentation qui consiste à poser la prise de pouvoir et donc les mobilisations, les changements des institutions comme étant centrales. J'aurais plutôt tendance à voir cette question plutôt comme étant un processus plus autonome, où il s'agit de constituer un espace propre, et donc la prise de pouvoir viendrait après.
Interromps une toute petite seconde pour saluer l'arrivée de Emmanuel de Varesquiel. Après, on est très heureux que Brandon et moi participiez à nos débats. On s'est permis de commencer il y a quelques minutes. Donc, nous en sommes à la première question sur la réalité ou pas d'une exception française. Juste un petit mot, puisque j'ai été un petit peu interpellé par ce que me dit Frédéric. Je ne me sens pas du tout marxiste pour ma part. c'est pas l'approche. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement si tu dis. On veut renverser les institutions, on ne veut pas forcément les remplacer, c'est ça ?
Non, c'est-à-dire qu'il me semble que la prise de pouvoir ne me semble pas, donc la transformation des institutions, du régime juridique ne me semble pas la logique la plus immédiate ou la première, nécessairement, dans cette idée de révolution. Or, il me semble que là, la question de la révolution dans le document tel qu'il est présenté, me semble rabattre vraiment très systématiquement cette question du phénomène révolutionnaire, justement sur cette question du prise du pouvoir et de la transformation du régime. Et je ne suis pas du tout sûr que ce soit franchement la chose nécessairement la plus évidente, ou en tout cas la plus immédiate dans cette question.
Peut-être simplement l'incapacité du régime existant à continuer à fonctionner, alors c'est peut-être plus neutre, non ?
Éventuellement,
ça pourrait. Allez. Et sur l'exception française ? Oui ou non ?
Je suis un peu gêné, moi, par ce qu'il explique.
Armel ?
Il me semblait, j'ai essayé de réfléchir aussi à ce qui pouvait corroborer cette idée. Je n'ai trouvé qu'un pays qui me paraît avoir autant d'instabilité sur une période un peu comparable, même si la situation de ce pays est certainement très différente. Mais je parle sous le contrôle de M. Buzyn, c'est l'Espagne. J'y vois une instabilité constitutionnelle chronique entre le début du 19e jusqu'au fond la crise des années 30. La période la plus longue dans laquelle une constitution a été à peu près applicable. On a à peu près joué le jeu, il me semble que c'est celle de 1876, qui crée une monarchie, disons, dualiste avec des pratiques parlementaires et une chose qu'on voit dans d'autres pays un peu avant. Ça a duré quelques décennies, mais pas très longues, pas très sereines. Et donc c'est très difficile de donner un tableau, très simplifié, de l'évolution constitutionnelle espagnole, parce qu'au fond, on ne sait jamais quand telle constitution est mise en vigueur, arrêtée, suspendue, etc. Pour le reste, je n'ai pas vu, en tout cas en Europe, de pays qui ait connu autant de séquences discontinues, puisque chaque pays a eu ses propres développements, mais au fond, il y a eu des stabilisations relatives sur des modèles qui n'étaient pas tous très libéraux parfois, je pense aux pays allemands, mais une stabilisation quand même relative, un équilibre qui perdure jusqu'à un certain point. Et certains de ces pays, dans le monde germanique notamment, ou en Europe centrale de l'Est, ont été très marqués par la révolution bolchevique qui a représenté une coupure, et le phénomène de la guerre a représenté une coupure radicale dans beaucoup de ces pays-là. Mais au fond, si ça n'était pas intervenu, on pouvait penser qu'il y aurait une évolution de type nordique ou de type Benelux. Au fond. Voilà. Je m'arrête là sur l'idée d'exception française.
Je n'avais pas pensé à l'exemple espagnol, mais effectivement. Kay ?
D'abord, je merci aux organisateurs de m'inviter. C'est pas vain, je trouve ça passionnant. Je trouve que répondre à une invitation dans laquelle il y a une citation de Paul Venn aussi géniale, c'est vraiment impossible de refuser. Comme je participe à tous les séminaires ou presque de cette ANR, j'ajoute que je trouve formidable cette idée du canevas. Je ne sais pas si c'est maintenant ou après qu'il faut le lire. En même temps, je suis très embêté parce que j'adore parler pendant 20 minutes en partant dans tous les sens. Et alors là, je me sens complètement discipliné et contraint, c'est épouvantable. Donc je ne sais pas par où commencer. Question italienne. Voilà, moi j'aimerais commencer par, au fond, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on entend par la révolution ? J'entends quand même qu'on entend, je ne sais pas si c'est l'idée d'une prise de pouvoir, mais l'idée d'une perte très brutale de légitimité des institutions, et puis ensuite de l'incapacité à s'accorder sur une organisation institutionnelle qui satisfasse, pas tout le monde, mais enfin non suffisamment de gens pour que ça serve de cadre à des conflits de moindre intensité. Et je ne sais pas si c'est ça que j'entends par révolution, pour ma part. Je me demande, et là je vais peut-être surprendre quelques-uns de mes amis, mais je me demande si je n'ai pas une conception plus providentialiste du système. Moi, je vois le phénomène révolutionnaire comme une très brutale et très imprévisible accélération du temps. Il y a des moments, il y a des fois où tout d'un coup, ça va beaucoup plus vite. Donc, je pense à un texte que j'aime bien, Jouffroy, je crois que c'est 1823, quelque chose comme ça, qui s'appelle « Comment les dogmes finissent », qui est un texte absolument magnifique. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire il y a bien des dogmes qui se terminent, et donc des institutions qui se trouvent dénudées, qui s'effondrent, qui n'arrivent plus à convaincre personne de légitimité. C'est le passage conclusif du canevas. Ça ouvre effectivement un espace politique de ce qu'on veut, c'est-à-dire ça peut être soit de création institutionnelle, soit de guerre civile, soit de... etc. Ça, j'entends très bien. Et ça correspond à mon petit grand récit personnel, c'est-à-dire j'ai bien l'impression effectivement que tout au long du XVIIIe siècle monte un projet politique assez nouveau, je ne vais pas appeler lumière si on veut, mais je ne sais pas, sans discussion historiographique sur ce que sont les lumières, qui n'est pas commun à la France, me semble-t-il, que j'interprète comme un projet d'autonomie politique, et qui devient tellement hégémonique dans les esprits que, effectivement, il y a un certain nombre de dogmes finissent et que les institutions de l'ancien régime se trouvent très démonétisées. Est-ce que ça produit une révolution? Je ne crois pas. Parce que c'est ce genre de phénomène de fin, de dogme qui se termine, et ça peut très bien fonctionner, mais sur un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres sociétés qui l'ont vécu, mais ça prenait 50 ans, ça prenait 200 ans, ça prenait, etc. Là, il s'est passé quelque chose. Et on l'a dit, très difficile à expliquer, qui est excessivement contingent, qui est que tout d'un coup, le vent s'est levé. Et là, ça s'est accéléré, c'est allé beaucoup, beaucoup plus vite. Mais j'imagine que si on avait expliqué à des gens en 1780 que le vent allait se lever, ils n'y auraient pas cru. Enfin, ils n'y auraient pas pensé, c'était pas ça la question. Quelques-uns, il y a Rousseau, à un moment donné... En fait, on lui l'a même dit. Ouais, mais enfin, voilà, ok, il y a une phrase de Rousseau, d'accord, c'est bien possible. Mais voilà, donc je séparerais bien volontiers les deux phénomènes. C'est-à-dire, d'un côté, un phénomène de mort des dogmes, et puis d'ouverture d'un espace politique qui peut donner un peu ce qu'on veut, et à côté de ça, un phénomène d'accélération du temps. Me paraît au fond un peu distant.
D'accord. Oui, parce que pas nécessairement corrélé.
Non.
C'est ça. Ça
non, pas nécessairement corrélé. Mm-hmm. Pas nécessairement corrélé. Je pense qu'il y a des sociétés qui ont vécu des transitions plus lentes.
Oui, je trouve l'idée d'accélération du temps très très intéressante.
C'est un peu benjaminien.
Parce que.
Vaguement.
Walter Benjamin.
Oui.
Terminé.
Oui. Oui, c'est pour ça, il y a un petit peu, c'est, voilà, tout d'un coup, les cieux s'ouvrent et il y a du vent. Et je pense que dans ces circonstances-là, les acteurs politiques font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'ils manœuvraient pour faire avancer leur projet sur une mer calme, et puis les voilà en train d'abord d'éviter d'être noyés, parce que. C'est fou ce que la révolution voit de là, et puis de tirer profit, de tirer parti de circonstances.
Oui, bah, à l'appui de ce que tu dis, peut-être un phénomène tel que la nuit du 4 août est sans doute quelque chose d'assez typique en ce sens, qui se passe en un espace de temps extraordinairement bref, quelque chose qui. Dans d'autres conditions, aurait pris, si ça s'était intervenu d'ailleurs, aurait pris 50, 60, 70 ans, le cas échéant. Moi j'aime bien cette idée d'accélération du temps, mais que tu attribuerais à quoi alors, s'il faut l'attribuer à quelque chose?
Le droit de Dieu.
Ah, la conception providentielle, un peu comme Tocqueville, non, dit qu'il y a une. Ouais. Il y a une force à l'œuvre dans la révolution qui dépasse la volonté des hommes.
Chez moi, c'est un mot pour dire qu'on ne sait pas.
D'accord. D'accord. C'est clair. Emmanuel de Varisquiel souhaitait intervenir.
Je veux rebondir sur ce que vous dites. S'il y a une exception révolutionnaire française, elle relève entre autres, mais il y a beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait développer, elle relève entre autres de la question du temps. Ça, c'est certain. Mais moi, je vois moins dans la révolution une accélération du temps qu'un changement de temps, ou que la volonté qu'ont eu les révolutionnaires d'introduire de nouveaux rapports au temps. Et ceci va jusqu'à l'invention du calendrier révolutionnaire qui prend la place du calendrier grégorien. Je vous donne un autre exemple. Lorsque les participants ou les protagonistes de la révolution de 1830, des Trois Glorieuses, en 28, 29, 30, juillet 1830, manifestent dans les rues, un certain nombre d'entre eux, et c'est dit notamment par Breuil dans ses mémoires, tirent sur les horloges. Et font en sorte que le temps royal, le temps de la monarchie incarnée par Charles X, s'arrête pour un autre temps. Ceci est d'autant plus vrai que, si vous voulez, toute l'histoire de 89, c'est l'histoire d'une évacuation du passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que dit Mirabeau à la tribune de l'Assemblée nationale en 1789. L'histoire n'est pas notre affaire. La table rase, c'est bien l'évacuation du passé, le passé, les vieilleries, de la monarchie, du catholicisme, qui sont relégués au placard de l'histoire dans l'esprit des révolutionnaires définitivement. Et on invente un nouveau temps qui est le temps régénéré de la révolution et de la modernité qui doit en découler. C'est donc moi une accélération du temps qu'à mon avis une véritable rupture dans le temps. Et au fond, ce qui fait la mémoire de la Révolution au XIXe siècle, c'est cette interrogation permanente de la part de tous les historiens, depuis Augustin Thierry jusqu'à Quinet et beaucoup plus loin encore, autour de la question de savoir comment on va faire pour réintroduire la Révolution française dans une continuité temporelle. Comment est-ce qu'on va faire pour passer, précisément pour lui trouver une légitimité, parce que la question de la légitimité, la deuxième question qui fait véritablement l'exception révolutionnaire française, comment est-ce qu'on va lui trouver ou lui retrouver une légitimité autour de la question du temps et de la continuité temporelle. Et toute l'œuvre, par exemple, d'un historien comme Augustin Thierry, sous la monarchie de Juillet, régime qui se caractérise par la pratique du pouvoir par la bourgeoisie, c'est précisément d'essayer de trouver une continuité qui légitime la pratique du pouvoir par la bourgeoisie depuis les communes du XIIIe siècle jusqu'à la monarchie de Juillet. Et donc là, véritablement, du fait même de la Restauration, du fait même de 1814, une recherche permanente et quasiment obsessionnelle de la question de la vérification de la Révolution dans le long terme de l'histoire de France. Et donc on passe là d'une rupture brutale, juin 89, d'une rupture de temps brutale à une recherche obsessionnelle de la continuité temporelle dans laquelle s'inscrirait la Révolution française avant, pendant et après la Révolution.
Voilà. Ça ne me semble pas forcément incompatible d'ailleurs, puisque en effet, s'il y a une soudaine rupture dans le temps et éventuellement à certains moments une accélération assez foudroyante, ça, je suis quand même assez d'accord. Après se pose la question de comment recoller les morceaux en quelque sorte et comment reconstituer une continuité là où il y a eu cette espèce de rupture, de court-circuitage finalement dans l'ordre du temps. Je suis très frappé parce que je ne savais pas cet exemple là sur les révolutionnaires 1830 qui tirent sur les horloges, je trouve ça assez fascinant, assez parlant.
Le changement de calendrier est assez spectaculaire, oui. De ce point de vue-là, il n'est pas innocent. Hein.
Un mot, après Denis aussi.
Pardon ?
Il y a Reynal aussi.
Qui annonce la révolution.
Il dit tout ça risque de finir dans le sang.
Donc en fait, Diderot.
Oui, en fait, c'est Diderot. C'est Diderot qui écrit, et il y a un moment à la fin de l'histoire des deux Indes où il dit si on ne règle pas ça, ça va finir dans le sang.
Et il n'y a pas Mably aussi. Il me semble que Mably a
plus. Là, je passe, mais il faut manger
Denis. Denis ?
Oui, moi j'aurais tendance à regarder la révolution à l'envers, je veux dire la révolution comme concept à l'envers. Et à me dire, ce qui compte n'est pas décisivement l'élément de destruction, de rupture avec le passé, de violence incontrôlable, c'est son revers. C'est la révolution comme fondation, c'est la révolution comme création d'un ordre, avec quelque chose que je trouve fascinant, parce que je ne sais pas quel est le mot dialectique n'est plus à la mode, mais il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de l'idée de révolution, il y a quelque chose du genre... On va violer l'impératif catégorique, on va mettre de la contradiction, on va faire persister la contradiction. Par exemple, on veut la réalisation de la liberté, on va la bafouer, on veut la souveraineté nationale, on va la confisquer. On veut la paix, on fait des guerres. Il y a un truc comme ça, j'ai du mal à le dire de manière extrêmement construite et cohérente, mais quand je vois des révolutions, je vois toujours ça. Et c'est au fond le paradoxe de vouloir être des modernes et de vouloir avoir une tradition. Comment dirais-je Tout régime moderne est révolutionnaire en quelque façon. C'est-à-dire il n'y a pas de régime politique moderne sans quelque chose qui est une révolution ou son analogue fonctionnel. Même l'Angleterre, il y a quand même besoin de la glorieuse révolution qui sert à quelque chose, qui a une fonction dans le dispositif. Et même quand on fait comme Anna Arendt et qu'on dit la révolution française était un événement mondial, la révolution américaine un épisode régional, en vérité elle veut dire c'est bien mieux quand c'est un épisode régional, mais elle n'arrive pas complètement à tuer l'élément de nécessité dans le fait d'avoir une révolution pour fonder un État. Et au fond, c'est ça qui est assez fascinant, c'est-à-dire... Alors un autre auteur qui fait partie du corpus, comme chacun le sait, de l'Institut Vinet, qui est Lénine, disait une constitution... une révolution plaisante. une révolution, c'est de la pensée convertie en acte. Je veux bien que c'est de la pensée convertie en acte, mais il me semble que ce qu'il y a de décisif dans le truc, c'est que la pensée et l'acte se violent mutuellement, se mettent en échec mutuellement. Et au fond... qu'est-ce que ça veut dire à mon sens? Ça veut dire que, j'y reviens, tout régime moderne et révolutionnaire en quelque façon, c'est l'idée même de l'autofondation. si on veut se fonder soi-même, il faut quelque chose comme une contradiction, comme les termes, comme une violence faite à la réalité. Et dans le cas français, ce qui me frappe, c'est l'idée, enfin, inversant ou jouant avec les propos de Napoléon, la Révolution française est fixée aux principes qui vont commencer. Vous n'avez pas fini d'en voir. C'est-à-dire, elle est fixée aux principes qui l'ont commencé, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Le fantasme du premier comité de constitution, des thermidoriens, de Napoléon, de terminer la révolution, c'est exactement pas ça, une révolution. C'est quelque chose qu'on termine en la continuant, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est le facteur de stabilité. Vous savez, comme pour faire marcher les avions dans le ciel, on a des gyroscopes, et à l'intérieur du gyroscope, il y a un truc qui tourne avec une énergie démente et qui est complètement instable. Une centrale nucléaire. Dans les régimes les plus stables de la modernité, par exemple le régime américain, il y a une sorte de centrale nucléaire au milieu avec un principe révolutionnaire. Et c'est ça que je trouve fascinant. Et je me dis, le droit constitutionnel, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ça en droit constitutionnel? C'est une question, au fond, nous, on est un projet de droit constitutionnel d'une certaine manière. On essaye de se poser des questions théoriques sur le statut de la révolution. Et moi, c'est un peu à ça que je suis parvenu. C'est qu'au fond, à toute constitution, il faut une révolution, même si la constitution, c'est conceptuellement le contraire. Révolution et constitution sont des contradictoires, sont des termes contradictoires, mais si on y réfléchit un peu, il y a besoin de cette sorte d'énergie incontrôlable, il y a de ce côté apocalyptique à tous les sens du terme, c'est-à-dire révéler la manifestation de la vérité, et en même temps apocalypse au sens courant de destruction. Et on a les deux, et une constitution qui n'aurait pas ça serait un machin qui ne marcherait pas. Et au fond, la répétition des révolutions à travers l'histoire du 19e siècle identifiée par Furet, c'est un petit peu ça aussi. C'est qu'il y a des moments donnés où il y a une fracture et où on voit l'élément de destruction et où l'élément de continuité n'est plus en rapport. Et 1958, c'est encore ça, sans doute.
Pour être sûr de te comprendre, je sais pas si c'est léniniste, mais peut-être ça a lien. Ça me semble très machiavélien. C'est-à-dire, l'idée, c'est pour fonder un régime.
Oui, c'est la mutation.
Voilà,
ouais,
c'est ça.
Un petit peu de ça.
Et que l'énergie requise pour la fondation d'un régime c'est la centrale nucléaire dont tu parles.
C'est un peu aussi ce qu'a dit Hannah Arendt, c'est un peu laissé sur la révolution. J'invente rien d'absolument génial.
La fondation semble donc inséparable de la rupture.
Chez les modernes, on n'a plus la cosmologie classique et on ne peut plus avoir une fondation dans l'ordre des choses. On a une auto-fondation qui est donc nécessairement une rupture violente. Mais si on veut que ce soit stable, cette rupture violente n'est pas esquivable. Et donc la violence, on est tous à la fois des jacobins, des thermidoriens. Toute personne qui veut faire marcher un régime politique moderne doit avoir un couteau sanglant à la main et la balance de la justice dans l'autre. Je vais le noter.
On est en train de se diriger tout doucement d'ailleurs vers la dernière question du canevas, hein, c'est-à-dire cette espèce de dimension de contradiction, ce nœud de contradiction interne qu'il y a dans le phénomène révolutionnaire, me semble-t-il. Armel Ledivelec voulait intervenir et François Saint-Bonnet.
Oui, je vais réagir. Peut-être est-ce que je ne te comprends pas tout à fait, mais j'ai l'impression que ce que tu expliques là est quand même démenti par l'expérience de la majeure partie des États occidentaux à la même période. C'est-à-dire qu'on a plein d'États qui suivent un cheminement de libéralisation, grossièrement une transposition de la Constitution anglaise, enfin, très très gros. La mise en musique progressive, souvent, de la réorganisation de l'ordre social, à l'exemple des Français, donc plus rapidement peut-être une sorte de démocratisation un peu plus rapide qu'en Angleterre, une société dont les couches ou les cloisonnements vont se sauter plus rapidement alors qu'ils sont peut-être maintenus longtemps en Angleterre. Et c'était évidemment pas la société à l'américaine qui ne les avait pas connus à la manière européenne. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a eu une impulsion donnée par la France, mais c'est vrai, on le voit en 1830, on le voit en 1848, et peut-être à d'autres moments. Et là, je comprends pas comment ton analyse me semble peut-être plausible pour le cas français. Sur l'Angleterre, je vois moins, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Les États-Unis, oui, peut-être aussi. Mais sur les autres pays européens, je suis un peu sceptique.
Tu viens de nous citer les grands modèles du droit constitutionnel, ce que tout le monde a imité. Donc, au fond, c'est-à-dire les grands laboratoires du droit constitutionnel ont tous dans le moteur une révolution.
Oui, mais alors est-ce que ça suffit de faire le tour de la question, sachant que beaucoup de pays n'ont pas suivi ce modèle-là.
En Allemagne, oui. Au Danemark, oui. Je ne parle même pas de la Russie. Ça marche quand même pas mal.
Et justement, et si on suit Denis, là où ça procède par imitation et pas par mutation, ça marche moins bien.
Redis ça.
Là où ça procède par imitation plutôt que par mutation, c'est-à-dire là où ça procède, là où il n'y a pas eu de la, ça marche moins bien parce que c'est importé. C'est ça que
tu. J'entends l'éventuelle objection d'Armel parce que j'ai absolument pas réfléchi à l'universalité de ce que je dis là, parce que j'ai toujours pensé que le droit constitutionnel n'était pas quelque chose d'universel, c'est quelques grands modèles. Et ensuite, si ça marche pour les grands modèles, j'estime que c'est satisfait. Mais je trouve que, si tu veux, ensuite, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup d'États? C'est qu'il y a des gens, je ne dis pas dans l'encore général, mais je prends le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui n'a pas eu sa grande révolution du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'elle rêve de faire? Tout le monde rêve d'en faire une. C'est-à-dire les États qui n'ont pas eu ça, les grands États avec une grande culture et des capacités historiques et un potentiel historique significatif, n'ont qu'une idée, c'est de le faire. Et souffrent, ils ont une sorte de souffrance de leur identité historique tant que la question de la révolution n'est pas solvée chez eux.
Et inversement, là où on rêve pas à la révolution et on a une constitution quand même, c'est pas une constitution. Exemple, le Japon, où la constitution ne constitue rien.
Et que font les léninistes? Ils font une constitution. Là encore, les trucs tournent un peu en boucle.
C'est tout à fait passionnant, c'est très intéressant. Je voudrais qu'on respecte un petit peu l'ordre des débats. Simplement sur le débat qui semble opposer un peu Armel et Denis, j'ai tendance à dire, de même qu'on parle parfois de grève par procuration, on pourrait éventuellement dire que certains pays ont fait la révolution par procuration, ou ont vu la révolution qu'ils fantasmaient faite ailleurs par procuration, et que ça peut être du coup permis une accélération de leur processus d'adaptation. Mais ce que j'en retiens en tout cas, c'est que clairement, donc, c'est plutôt pas la ligne de l'exception française qui se trouve retenue en ce sens. Et puis j'aimerais aussi tout à l'heure peut-être qu'on revienne sur l'autre aspect de ce que tu disais, c'est-à-dire la révolution comme nœud de contradiction absolument insoluble, parce que je crois que c'est une question assez centrale. Alors, dans l'ordre, donc François Saint-Bonnet, je crois, souhaitait intervenir, et puis on écoutera Emmanuel de Varesquet.
D'abord, j'ai un peu le sentiment que les Français ont une tendance à penser qu'ils sont des exceptions un petit peu pour tout. Et donc, ils sont des exceptions en matière culturelle, ils sont des exceptions en matière sportive, en matière politique, et ici en matière révolutionnaire. Si l'exception, c'est ce qui est hors de prise, il faudrait que les autres phénomènes d'évolution constitutionnelle soient parfaitement saisis et s'ils se manifestaient de manière soit révolutionnaire, soit non révolutionnaire, qu'on puisse avoir une parfaite lisibilité, ce qui me semble pas absolument établi. En revanche, je pense qu'on peut, oui, on peut assez facilement dire qu'il y a un certain nombre de particularités en France. Et je voudrais dire deux ou trois choses sur ce qui précède la révolution. Parce qu'il me semble qu'il y a des choses qui ne sont certainement pas des clés de lecture univoques, mais qui peuvent apporter des éléments. On a en France la construction d'un pays, on va dire peut-être d'une nation, en tout cas d'un État, de la nation par l'État certainement, autour d'une incarnation qui est le roi. C'est-à-dire que le roi a toujours eu un objectif de personnification d'une collectivité et d'unification. Donc c'est un roi qui n'est pas centriste au sens où il y aurait sur sa gauche et sur sa droite des gens d'opinions différentes et il serait au milieu. Il n'est pas non plus bonapartiste au sens où il serait par-dessus la droite et la gauche. Mais en tout cas, il est cette totalité. Et ça a si bien marché qu'à partir de la période du grand siècle, je ne sais pas si c'était un projet, mais en tout cas, l'objectif de la construction du pays a été réalisée avec une monarchie incarnée, et certainement avec une monarchie qui n'est jamais parvenue, et ça a été montré par d'autres, à distinguer les deux corps. Il y a bien eu, essentiellement, un corps du roi en France. L'idée des deux corps existe en théorie, mais elle échoue. Donc à partir du moment où on arrive au XVIIIe siècle à un roi qui est perçu comme partisan, il est perçu comme partisan dans son conflit avec les parlementaires, et il est perçu comme partisan dans son conflit également avec, on va dire, les gens éclairés, qui sont très, très différents. Vous voyez comment on peut présenter au XVIIIe siècle le lit de justice, qui est vraiment l'attestation de la plus grande unité du royaume autour de son roi. Le roi revient en son parlement, il devient un. Il devient le plus grand juge. Et c'est présenté, c'est la présentation qui en est faite au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, on dit c'est bien le pouvoir de dernier mot. On est dans un conflit, pas très bien civilisé, et celui qui arrive à faire taire est le roi. Il me semble que cette compréhension-là du lit de justice est totalement contraire à la logique de la monarchie. Donc on a changé d'époque dès le XVIIIe siècle. Et on est déjà dans cette logique du constitutionnalisme moderne qui est au fond qu'on estime qu'on peut se passer du roi comme principe d'unité, mais on va considérer qu'on va trouver un moyen de civiliser le conflit. Et certainement, si le processus révolutionnaire a duré assez longtemps, c'est qu'on n'était pas du tout habitué à avoir des conflits civilisés, nous autres, parce qu'on avait ce principe d'unité et qu'au moment où on aurait pu s'orienter vers un conflit relativement civilisé, on a cessé de réunir les états généraux et le conflit avec les parlements a été extrêmement âpre. Donc il me semble que il n'y a pas d'exception française, mais il y a cette particularité que à partir du moment où c'est le roi lui-même qui se met en position, pas forcément de sa faute, mais il se trouve qu'il en est ainsi au XVIIIe siècle d'être dans une position de partisan, le vide créé par cette posture-là est déjà créé. Alors, je crois, là-dessus, je suis assez d'accord pour dire que c'est la révolution en France, c'est plus la prise d'un pouvoir à certains égards vacant. Et je crois qu'il y a une espèce d'énorme colère dans le second XVIIIe siècle, non pas contre l'excès de puissance de la monarchie, mais de son impuissance, ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle est réactionnaire? Est-ce qu'elle est progressiste? Est-ce qu'elle va vers l'égalité? Est-ce qu'elle remet en cause des privilèges? Oui ou non? Mais qu'elle fasse ce qu'elle dit faire. Or, Louis XIV avait réussi à faire ce qu'il disait faire, vouloir faire. Il me semble que ça n'est plus le cas au XVIIIe siècle. Donc je crois que le processus de pure désintégration est très abouti dans le second XVIIIe siècle et que, alors après on va pouvoir analyser je pense les raisons pour lesquelles c'est finalement le parti éclairé qui l'emporte, tout simplement parce que les partis contestataires comme le parti parlementaire reposent exactement sur les mêmes fondements que la monarchie, c'est-à-dire sur la tradition. Donc à partir du moment où l'un tombe, l'autre tombe avec. C'est assez clair. Voilà.
Toute petite intervention, alors, Michael.
Non, c'est pour dire que je trouve que ce que dit François s'articule assez bien avec ce que disait Denis, semble-t-il. Ce que tu décris, François, est la manière dont on cesse de croire à l'univers mental qui jusqu'ici gouvernait nos pratiques et qui ouvre la porte à un moment d'autofondation. Justement, ce sont les éclairés qui l'emportent, et ça c'est très important, parce que les éclairés, alors là la référence serait plutôt au Castoriadis, ils ont un projet d'autonomie politique. Et ils sont très contents en fait, et ils ont beaucoup aidé à saper tout ça, parce qu'ils arrivent avec des idées comme la souveraineté populaire, ils arrivent avec tout un tas d'idées d'auto-institution de la société, et ça ouvre un moment de créativité politique étonnant.
Emmanuel de Varesquel.
J'ai assez envie de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un peu, ça relève un peu d'une sorte de tautologie, au fond. Toute révolution relève d'un processus dialectique, entre, s'agissant de la Révolution française, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le patriote et le traître, entre la religion laïque et la religion révélée. On pourrait comme ça multiplier les exemples d'antinomie créée par la Révolution. Et je ne pense pas que cette preuve ou cette démonstration par la dialectique suffise à donner à comprendre la perpétuation de la Révolution française au cours du XIXe siècle. Je pense que l'un des éléments d'explication, qu'il y ait exception française ou pas, tient dans la question de la légitimité. Nous avons un rapport très particulier, alors là pour le coup par rapport aux autres pays européens, du fait même du processus révolutionnaire tel qu'il s'est développé en 89 par rapport à la légitimité. Il semblerait que non seulement nous ayons des coexistences de légitimité à chaque conflit de 1815, 1830, 1848 qui se perpétue, mais que à chacun de ces conflits, la légitimité submerge, l'emporte largement sur la légalité. Jusqu'à ce que dit De Gaulle, d'ailleurs cité par Perfit à Londres en 1942. Pourquoi est-ce que cette légitimité est devenue en France une sorte de figure centrale des instabilités institutionnelles ou ce problème de la légitimité? Moi, je pense que ça tient tout simplement à la question de la souveraineté. Et à ce qui s'est passé, tout bêtement, le 20 juin 1789, au Jeu de Paume, lorsque brutalement, le tiers état des états généraux prête serment sur un renversement de souveraineté extrêmement brutal. On passe d'une souveraineté qui, du point de vue des représentations, est très solide, du point de vue de la réalité des pouvoirs les moins, comme vous le disiez très justement, à une souveraineté de droit divin, à une souveraineté monarchique, vers une souveraineté de la nation ou du peuple. Alors ça, c'est encore un autre problème. Mais quand les députés du tiers disent « la nation est là où sont les députés du tiers, où ils s'assembleront, et elle n'est nulle part ailleurs », ils disent que la souveraineté leur appartient dorénavant et qu'elle n'appartient plus au roi, à quelques centaines d'encablures, à quelques centaines de mètres du lieu même qui symbolise la souveraineté, qui est le château de Versailles. Je pense que c'est ce basculement brutal de souveraineté qui explique en France le problème de la légitimité et qui fait que dans un conflit comme celui de 1814-1815, par exemple, que j'ai pas mal un peu étudié, qui est cette question des 100 jours, vous avez une sorte de dispersion des légitimités qui affaiblit d'autant les pouvoirs institutionnels français entre une légitimité monarchique incarnée, l'incarnation est en effet extrêmement importante, incarnée par Louis XVIII, une légitimité impériale ou napoléonienne incarnée par le Napoléon rebouillu rentré de l'île d'Elbe le 1er mars 1815 et même une légitimité républicaine incarnée par l'aile gauche de la Chambre des députés des 100 jours qui siège du début juin au 8 juillet 1815. Et on retrouvera ce champ de coexistence des légitimités à chaque conflit français jusqu'au mot de Sartre en 68 dans la cause du peuple, élection piège à con. On est encore là dans un problème qui est celui d'une légitimité largement supérieure que l'on invoque à chaque fois que le problème de la légalité se pose et que l'on considère comme supérieur à la légalité. Cette question de la hiérarchie, légitimité, légalité très particulière, à mon avis, à l'exemple français, provient de ce renversement de souveraineté de 1789.
Si je peux me permettre, je crois que ce que vous dites est très, très convaincant. Je situerai l'affaire plus le 17 que le 20 juin. Et d'ailleurs, le roi ne s'y trompe pas, parce que dans la séance du 23 juin, il déclare bien la séance du 17 juin.
Vous avez parfaitement raison. Et puis on peut aller jusqu'au grand débat institutionnel de août-septembre 1789. En réalité, c'est une séquence qui est un peu plus longue. On peut la symboliser.
Je crois que les proches conseillers du roi, quand ils rédigent sa déclaration royale du 23 juin, s'y trompent pas. Ils savent bien que c'est bien ce 17 juin que l'affaire s'est jouée.
En effet. Ouais.
Denis, tu souhaitais enfin, juste une réaction à votre réaction. Est-ce que le propre du Parti républicain dans la France du 19e siècle, son projet et en même temps son problème, ça n'est pas tout au long de ce 19e siècle français d'essayer de réaliser la sorte d'acrobatie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de convertir en légitimité la violence révolutionnaire, de convertir en tradition l'événement et l'apocalypse révolutionnaire, et d'essayer de résoudre la sorte de multidialectique que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire entre la souveraineté qui était du roi et la souveraineté qui devient de l'Assemblée nationale, le pouvoir qui est aux représentants, mais le pouvoir qui est quand même toujours légitimement dans la rue, dans les clubs jacobins, dans les sections de la commune. Et au fond, tout ça,
Si on le dit d'une manière réconciliée, comme dirait Hegel, c'est la tradition républicaine. Si on le dit d'une manière clivée et angoissée, c'est l'histoire du républicanisme en France, c'est les radicaux, c'est l'histoire du radicalisme en France. Donc c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas nécessairement. Enfin, ce que vous dites là, j'ai pas nécessairement senti une incompatibilité avec ce que j'avais essayé de.
Non.
L'histoire de Clémenceau,
pas des personnalités. Ce que vous dites est passionnant, parce que c'est vrai que l'appropriation de la légitimité par la République, c'est la réconciliation des Français avec eux-mêmes. C'est les années 1880, et d'ailleurs, le processus constitutionnel, dans un certain sens, est mis de côté, précisément pour cette raison-là. Et c'est ce qu'annonce Tocqueville à la fin de la démocratie en Amérique, sur un air, je dirais, mi-figue, mi-raisin, un peu désolé. Quand il dit craindre que les passions révolutionnaires ne se transforment en procédures administratives, on est là, on y est.
Et Alain, les textes d'Alain qu'on a là, il y a quelque chose comme ça. Et inversement, on risque de dire une grande banalité, à l'évidence, la contre-révolution en France se pense tout de suite comme révolution et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire Charles X et jusqu'à Vichy. Furet faisait une analogie entre Vichy et le problème de 1789 que je trouve légitime. Au fond, ça donne cette manière qu'a la révolution très très tôt, presque immédiatement et même avant même d'apparaître, de dire je veux le lieu du pouvoir qui est déjà là. Et parce que je suis d'ores et déjà tout autre chose que le pouvoir, ça décrit une sorte de schéma, de structure abstraite de la politique française pour très très longtemps. C'est peut-être vrai dans d'autres pays, je ne parle pas de spécificité française. Ouais. Mais enfin, des gens quand même un peu plus intelligents que, j'allais dire que nous, mais je vais être plus humble que moi, comme Hegel, ont quand même vu que c'était un phénomène mondial, que c'était un avènement, et ce n'étaient pas des idiots, ils avaient vu un truc, ils avaient vu un schéma de la politique. Voilà.
Parce que le lieu du pouvoir dans le processus révolutionnaire français devient indivisible. Ce qui précisément crée de la dialectique, de l'antinomie, et c'est ce que dit Brissot à la tribune du club des Jacobins dès 1791. Vous l'avouerai-je, messieurs, la révolution a besoin de grandes trahisons. Le moteur de la révolution française, c'est la trahison, réelle ou invitée. Ou inventée, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de. Le processus dialectique habite, mais pour des raisons particulières qui tiennent à cette question de la légitimité, habite peut-être de façon plus violente que dans un autre processus révolutionnaire, le processus français, et explique en partie pourquoi les Français ont eu tant de mal à trouver la balance des pouvoirs, a trouvé une sorte de voie moyenne, de voie mixte. Pourquoi, par exemple, le modèle de monarchie constitutionnelle, entre guillemets, à l'anglaise, a eu tant de mal à s'adapter depuis les grandes discussions d'août 89 sur la question du bicaméralisme jusqu'à la charte de 1814, en passant par celle de 1830. Tout ceci est lié.
Juste un mot, en vous écoutant, quelque chose qui me vient, c'est peut-être quelque chose de complètement idiot, mais c'est pas grave, ces séminaires sont là aussi faits pour qu'on puisse dire des choses idiotes. Mais en vous écoutant et en écoutant Emmanuel de Varesquel parler de ce décalage terrible entre légitimité et légalité comme une des caractéristiques françaises, au fond, je me disais, peut-être que le phénomène révolutionnaire a fini par se calmer dans le cas de la France, parce qu'à défaut de trouver une légalité juridique qui n'était jamais présente, parce qu'il y avait toujours un besoin de rupture de la légalité à un moment ou à un autre, on a fini par trouver une espèce de légalité historique, si j'ose dire. On a fini par, avec simplement le passage du temps, qu'un nombre suffisant de générations ait vécu dans la tradition, dans le mythe révolutionnaire, pour que ça fasse une continuité historique qui permette peut-être, je ne sais pas, de résoudre finalement tous ces court-circuitages dans l'ordre du temps dont vous, les uns et les autres, vous parliez tout à l'heure d'une façon qui me semblait d'ailleurs très très stimulante et intéressante. Mais bon, je ne sais pas, je lance ça comme ça un peu.
Oui, il y a un moment où ça s'arrête. Non seulement ça ne se commande pas, mais ça ne peut pas durer éternellement. C'est sûr.
Mais ça dure étonnamment longtemps en même temps, mais le moment où la révolution devient suffisamment vieille, si on peut dire.
Ce qui tient lieu de constitution de substitution au XIXe siècle, au fond, c'est le code civil.
Et les structures administratives, peut-être.
Oui. Et les structures administratives.
Et
Je crois qu'il y a aussi un autre phénomène, qui est le chose qui paraît avoir été trop peu vue et qui commence à être vue aujourd'hui par l'historiographie, parce que la France est en train de se convertir, pas facilement et pas rapidement, mais à l'existence d'un pouvoir judiciaire ou un pouvoir du juge. Et donc, certains historiens commencent à se souvenir que la France s'est construite par ses juges et qu'il y a une épaisseur historique extraordinairement importante à cela. Je crois que 1789 est un événement extraordinairement anti-judiciaire et que c'est peut-être ce qui va durer le plus longtemps. Ce qui fait que les constitutions, toutes les constitutions, sont, contrairement à ce qui est le cas en Angleterre ou aux États-Unis, les constitutions ne sont que des mécaniques politiques. Ou en tout cas, on ne considère pas que le juge puisse être un des pouvoirs politiques, un juge politique. Ce qui fait que ce sont des constitutions qui sont elles-mêmes un programme politique. Donc changer de constitution par la Révolution est un changement de programme politique au XIXe siècle, alors qu'on ne change en effet rien d'autre. On ne change pas de code. Et si nous avions eu certainement une conception de la Constitution où le pouvoir judiciaire n'aurait pas été un deuxième pouvoir exécutif, comme simple exécutant, alors il me semble que le mouvement révolutionnaire eût été différent, parce que il n'y aurait pas eu ce sentiment que, en prenant d'assaut le pouvoir et en un groupe de personnes, le peuple au sens de 48 ou certaines bourgeoisies au sens de 1830, peu importe, pourrait, en rédigeant sa constitution, réaliser son programme politique. Et je crois que, en ayant conçu les constitutions comme simplement des mécaniques, et en se rassurant par l'idée qu'il n'y aurait rien à voir entre une déclaration des droits et la constitution comme mécanique politique, car ça n'a rien à voir concrètement, on a en quelque sorte enclenché un processus révolutionnaire renouvelé, qui n'est pas très révolutionnaire en réalité au XIXe siècle, ça ne révolutionne pas grand-chose, ça change le programme politique, l'équipe politique au pouvoir, mais il y a eu d'autres soubresauts assez... Non mais je veux dire, quand on songe à 1648-1649, ça n'a pas du tout plaisanté en France. Quand on songe aux guerres de religion, ça n'a pas du tout plaisanté. Ça a été extrêmement loin. Simplement, ça n'a pas abouti à cela. Voilà. Et je crois que le fait qu'il n'y ait que des pouvoirs actifs et aucun, en quelque sorte, pouvoir neutre, et la recherche permanente à la fin de la Révolution au XIXe siècle de ce fameux pouvoir neutre, est une des clés de lecture possible, assez fortement réitérée, du phénomène révolutionnaire.
Si je comprends bien, ce que tu dis, c'est qu'en gros, si la France avait gardé un juge puissant, pas l'inverse de ce que était les parlements d'Ancien Régime, ça aurait permis de mieux stabiliser l'édifice constitutionnel et éventuellement d'éviter la révolution. Ça aurait été une espèce de lest equipoise, disent les anglo-saxons, de lest qui aurait, en gros, pour reprendre une métaphore ancienne, stabiliser le vaisseau.
Oui, ou que l'on admette qu'un des pouvoirs, comme par exemple la chambre haute en Angleterre, fut aussi une chambre qui juge, qui tempère, qui régule, qui neutralise, pas juge au sens de la
règle. Réglant et modérant, demander ce que
si tu veux. Ça me va aussi.
Alors je pense que Mickaël souhaite sans doute réagir.
Oui, non, je ne veux pas réagir, je suis entièrement d'accord avec François. Sauf que pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce que ce dont il était précisément question et que ça n'est pas lieu. C'est le projet, alors je ne sais pas comment utilisant ton expression, le groupe des éclairés. Parce que si je parle du projet des Lumières, c'est beaucoup trop vaste. Il y a des Lumières, il y en a des Écossaises, il y en a des Japonaises.
Patriotes, c'est peut-être plus exact.
Oui, je ne sais pas. Bon, les éclairés, moi j'aime bien ça. leur projet, me semble-t-il, est un projet d'auto-institution de la société. C'est le moment où ça se radicalise, et un peu à la manière dont Foucault lit prêtre, qu'est-ce qu'une lumière, et un prêtre, les lumières comme un mouvement de sortie. Et c'est le moment où on va sortir de tout ce qui fait hétéronomie dans la société, de tout ce qui empêche la société de s'auto-instituer, à commencer par les juges, à commencer par le pouvoir des juristes, à commencer par les corps constitués de juristes. Et donc je pense que la grosse difficulté dans cette histoire, c'est que, ce qui fait que le scénario, je n'ose pas dire désiré, disons, pointé par François, ne pouvait pas se réaliser, c'est que c'est la Révolution, c'était exactement ça. C'était conquérir l'auto-institution permanente de la société dans la destruction des pouvoirs modérateurs réputés hétéronomes. Et donc, c'est ça ce qui se passe.
Alors, je me permets d'intervenir pour poser une question. Je comprends bien ce que vient Michael, mais est-ce que c'est aussi évident que ça? C'est-à-dire, est-ce que toute révolution nécessairement en passe à un moment ou à un autre par une remise en cause radicale de ces juges ou ces corps modérateurs en général? J'en suis pas forcément.
Mais je n'ai pas du tout dit ça.
On peut
imaginer l'auto-institution de la société dans et par les juges. Je pense qu'il y a plein d'Américains qui ont pensé ça. Moi, je lis du Bruce Ackerman. Il a l'air de trouver que le contrôle de l'institutionnalité, c'est l'auto-institution de la société. Énormément de mal à comprendre ce qu'il veut dire par là, mais lui, ça n'a pas l'air de lui poser de problème.
D'accord, j'avais mal compris ce que tu voulais dire. J'avais compris qu'au fond, puisqu'il devait y avoir de l'autofondation, on devait aussi éliminer le pouvoir judiciaire nécessairement, ce qui ne me paraissait pas évident parce que c'était pas vrai.
Je pense que c'est. Je vais pardonner un mot encore, mais c'est un peu à la Harold Berman, Law and Revolution, qui me paraît être un livre complètement délirant, très très faux, mais tellement passionnant qu'on rêverait d'écrire des livres. Il faut d'avoir tort à ce point. Il interprète les révolutions comme des moments de tentative de sortie de la tradition juridique occidentale. Ça me paraît très très juste pour ce qui concerne la Révolution française. Le sortir de la tradition juridique occidentale, arrêter de faire fonctionner ça, instituer les pouvoirs nouveaux qui seraient des pouvoirs à la fois auto-institués et dans l'auto-institution permanente, des pouvoirs actifs, disons, pour reprendre ce que disait François.
On viendra à cette question du juge, et parce que ça touche aussi à celui des privilèges et des parlements, et on va y arriver, mais Denis souhaitait intervenir.
Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans mon cerveau embrouillé, mais plusieurs choses. Il me semble que ce projet dont parlait François tout à l'heure, qui était d'unifier la souveraineté, qui est antérieure à la Révolution et qui est une sorte de condition de possibilité pour elle, il est sacrément ancien et il passe par la liquidation du féodalisme en France. Parce que le féodalisme, c'est ce que Marx appelle la démocratie de la non-liberté. C'est-à-dire c'est quand même un système extrêmement décentré, non stable. Mais moi, je renverserais bien la formule de Marx, je dirais plutôt que c'est la liberté dans la non-démocratie, la liberté féodale. Et au fond, je dirais que c'est plutôt beaucoup de liberté par la production d'un truc qui n'a pas pour projet d'être démocratique. Et ensuite, quand Montesquieu, par exemple, va dire ce beau gouvernement est né dans les bois, la liberté gothique, c'est un peu l'anti-révolution française. Enfin, c'est des banalités que je dis là, mais... et au fond, ce beau gouvernement est né dans les bois, mais en France... la déforestation a commencé sacrément tôt. dans l'antipathie des révolutionnaires contre différents dispositifs de la France d'avant, il y a la continuation du projet de laminage, de la complexité féodale. Enfin, la nuit du 4 août, elle aurait presque pu être faite par les technocrates de la fin de la monarchie d'Ancien Régime. D'ailleurs, il y avait ça dans les cartons. Exactement. C'est exactement ça. Mémoire sur la municipalité, ce genre de truc. C'est voilà. Et l'autre idée que je voudrais exprimer, c'est que je pense qu'il y a différentes sortes de juges. Et les parlements français d'Ancien Régime étaient des juges à prétention représentative, à prétention d'appropriation d'une sorte de volonté générale. Et que c'est précisément pour ça qu'on leur a tapé sur le crâne avec une aussi belle énergie, tant l'absolutisme monarchique que la Révolution française. Et que c'est un tout autre modèle. D'ailleurs, la Fronde, c'est exactement ça. La Fronde parlementaire, même certains aspects de la Ligue, du constitutionnalisme de la Ligue, qui est cher à notre institut. C'est ça. Et les Américains ont vraiment un autre projet de pouvoir judiciaire, de pouvoir juridictionnel, qui est justement ce que tu disais toi et ce que dont Michael faisait la philosophie, c'est-à-dire le pouvoir hétéronome par excellence, le pouvoir qui est à l'extérieur. Et on n'échappe pas complètement à ce fantasme, enfin ces deux fantasmes, l'un face à l'autre, le juge représentatif contre le juge tellement extérieur qu'il est complètement impartial. Mais je pense qu'on n'échappe pas à ça sous différentes facettes de nos modalités de gouvernement contemporain. Alors c'est peut-être un peu hors sujet, peut-être que je parle ça, mais au fond les autorités indépendantes, c'est exactement essayer de produire un pouvoir tellement extérieur que, et dans mon esprit, je ne peux pas m'empêcher de penser que si on veut qu'il soit aussi extérieur, c'est dans un projet de dépolitisation qui vise à rétablir la juridiction, qui vise à rétablir, qui vise à remettre de l'ordre dans ce... Parce que la politique, c'est quand même désagréable, c'est du désordre, c'est du bazar, c'est compliqué, il y a des intérêts divergents. Et si on avait un bon juge qui nous résolvait tout ça, on serait tous
très heureux. Il y a entre les deux, il y a la figure qu'évoque Dominique Rousseau, que j'aime beaucoup.
La figure ou Dominique
ce qu'il écrit, j'aime bien ce qu'il écrit, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Il dit qu'il y a une figure entre les deux qui est l'honnête technocrate qui a fait l'ENA. C'est-à-dire entre les années 30 et les années 80, il y a cette personne qui est capable de produire par une sorte de raison administrative, cette neutralité, cette impartialité de l'État.
Ça, c'est la physiocratie, au fond. Mmh. Le premier des énarques, c'est Turgot. Ouais. Clair. Mmh.
Peut-être un mot, je ne suis pas trop censé intervenir. Mais peut-être un mot sur ces questions, parce que petit à petit, au fond, on est en train d'aborder la question du juge et donc forcément la question des parlements d'ancien régime. On est en train de rediscuter aussi la question de l'incarnation royale. Il me semble qu'il y a dans le phénomène de l'incarnation royale tel qu'elle apparaît dans ce que j'appelle la constitution des Bourbons, plus que la simple élimination de la féodalité. Je crois que ça va au-delà. Et je crois que si cette personnification mystique de la nation, la nation ne fait pas corps en France, elle réside tout entière dans la personne du roi, etc., est allée aussi loin, est devenue une espèce de religion, je pense une espèce de religion royale qui s'instaure avec les Bourbons, c'est pas seulement une question de pouvoir, c'est aussi parce que pour conjurer un traumatisme, qui était le traumatisme des guerres de religion, et qui était singulièrement le traumatisme de la Ligue. Je veux dire par là que avant que ça dérape aussi gravement au moment de la Ligue et pendant la période où il y a des espèces de guerres civiles, enfin il y a de la guerre civile mais à des doses relativement espacées jusqu'à la Saint-Barthélemy disons en gros, le roi essaye d'être un peu l'arbitre, ni trop, ni l'une des parties ni l'autre, ça marche pas, il échoue, Après la Ligue où il y a une remise en cause fondamentale de la légitimité du pouvoir, il change totalement d'attitude, et tout ça pour dire, je ne vais pas développer, mais tout ça pour dire qu'à mon sens, dans cette idée d'incarnation royale, il y a implicitement l'idée, à défaut d'une réconciliation dont on ne sait pas trop dans quelle mesure elle est possible, une sorte de... une façon de conjurer la division, d'essayer de conjurer le spectre d'une division. Et c'est peut-être aussi, me semble-t-il, l'un des facteurs qui font que, ensuite, cette figure incarnative sera combattu avec une vigueur aussi radicale d'un côté, ou tendra à revenir également sur la scène et à se réintroduire périodiquement dans l'histoire longue française.
La souveraineté bodinienne, c'est la grande solution du parti politique contre toutes les ligues. C'est une solution.
Mais justement, ça marche pas.
Je ne sais pas si ça marche.
Après la Ligue, ça marche. Pendant la Ligue, Baudin devient lui-même ligueur. Il faut trouver autre chose. Il faut sacraliser le pouvoir. Il faut créer l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est Henri IV, le premier. Il faut créer tout un mythe royal qui n'est pas du tout dans Baudin, me semble-t-il.
Oui, c'est assez compliqué. Mais il y a, si on veut avoir une lecture un peu politiste de cette affaire-là, politologue, il y a, me semble-t-il, clairement à partir du début du règne des Bourbons jusqu'à la fin, une alliance objective entre la monarchie et le tiers-état contre les corps intermédiaires. Et il y a déjà dans Bodin quelque chose qui est totalement subversif pour la monarchie, très profondément subversif, et dont parle beaucoup Montesquieu, c'est que sous la loi, il y a une égale suggestion, donc une égalité. C'est-à-dire qu'un roi qui légifère, c'est un roi qui propose l'égalité devant la loi, et qui propose l'égalité. Et c'est ça qui fait que la souveraineté devient immédiate, sans intermédiaire, sans médiation. Voilà. Et que dit Montesquieu, il pense que c'est ce qui est arrivé en Angleterre et que ce n'est pas tout à fait encore arrivé en France. Et il dit les Anglais seraient le peuple le plus esclave du monde s'ils n'avaient pas cette constitution libre. Parce qu'on est libre par la constitution et pas par la structure sociale. Et donc, il dit, voilà, ils n'ont plus leurs corps intermédiaires, donc ils seraient le peuple le plus esclave du monde. Mais je crois que les Bourbons, avec une parfaite application, à travers la loi et l'égalité qui est l'antonyme, en tout cas le regard, voilà, chacun se regarde comme l'égal de l'autre dans son égale suggestion. C'est le problème de la souveraineté tel que théorisé par Bodin. Évidemment, et donc pour revenir sur la Révolution, quand ça s'est cassé, celui qui dit la loi est cassée, alors ce qui faisait tout tenir fait que pour reconstituer quelque chose qui va pouvoir faire tenir ensemble, on a l'occasion d'avoir plusieurs révolutions avant de. Enfin, beaucoup d'instabilité avant que tout ça puisse se recouvrir.
Est-ce que ce que tu veux dire signifie en gros, il y avait. J'essaie de. Ménager une transition vers ce dont on parlera tout à l'heure. Ce qui veut dire, en gros, l'exercice du pouvoir royal était le facteur égalitaire de l'Ancien Régime, et qu'à partir du moment où ça se brise, à partir du moment où il est plus crédible dans ce rôle, je ne sais pas, quelque part après l'attentat de Damiens, par exemple, en gros, c'est à peu près à ce moment-là, à partir de ce moment-là, l'immensité des inégalités de statut devient intolérable, c'est ça?
Oui. Ça me va, c'est cool.
On est en train d'aller vers une transition vers la suite des débats.
Tout le monde est marxiste ici, c'est très bizarre.
Le sujet,
Oui, mais on nous avait dit qu'en fait, non, c'est pour ça que je suis.
Ça dépend ce que tu entends par être marxiste. Est-ce que c'est...
La prochaine fois, on fera la loi naturelle. On comprend.
C'est marxiste ce que tu dis. Grosso modo, t'as de la lutte des classes quand t'as pour l'injustice sociale et que c'est intolérable.
Ah non, c'est pas ça.
Ah bah.
Mais, c'est pas sur le terrain de la lutte des classes. Mais,
là,
injustice sociale et classe, c'est pas forcément la même chose, mon cher Michel. Bien, on va. Si vous voulez bien.
C'est très iconoclaste ce que vous venez de dire.
Oui.
C'est effrayant.
Désolé.
Vous oubliez que la société d'Ancien Régime est une société d'ordre, qu'elle est organiciste. Le principe d'égalité est exactement à l'inverse du principe monarchique.
Tout à fait, mais je pense que c'est la monarchie elle-même, le roi lui-même, qui détruit ce principe, avec une parfaite application, une parfaite...
Parce que l'absolutisme, c'est un projet, c'est pas une réalisation, et je pense que le projet absolutiste, c'est ce que dit François. Mais la société française d'Ancien Régime n'était pas l'absolutisme, elle était ce que vous dites, une société de privilèges.
Et le roi très
je pense que c'est il y a peut-être deux mouvements.
Le projet absolutiste monarchique n'a jamais été jusqu'à, et c'est précisément pour ça que la révolution a eu lieu, n'a jamais été jusqu'à renverser les ordres.
Nous en sommes d'accord, mais c'est pour ça que je dis que c'est un projet, c'est pas un accomplissement.
Et c'est peut-être précisément parce que ça, il y avait ce projet-là à l'intérieur de l'appareil monarchique, que les révolutionnaires qui, eux, étaient des égalitaires, qui avaient bien l'intention de réaliser l'égalité, ont trouvé absolument sublime de trouver un appareil d'État à la disposition pour se faire.
C'est pour ça que je suis pas fasciné par le propos de Tocqueville qui dit que toute noblesse a besoin d'une aristocratie. Il y a un truc auquel je ne crois pas pour la France dans ça. C'est-à-dire la noblesse avait besoin d'autre chose. Elle a besoin d'un tiers État pour taper sur son aristocratie. Et le projet intellectuel de l'absolutisme a quelque chose d'anti-aristocratique. Dans mon esprit, je ne suis pas historien comme vous.
Mais il y a la monarchie.
Pour préciser ce que Madame de Boufflers, par exemple, qualifie la Révolution comme du choc de l'aristocratie et de la monarchie. Elle l'écrit dans une lettre à Gustave III en 1790, dès 1790. Elle a tout compris.
Non, mais pour dire la chose autrement, le projet que je décris de la monarchie est un projet qui, évidemment, a échoué. mais que les révolutionnaires ont réalisé.
C'est ça, c'est ça, c'est ça.
D'accord. Et peut-être un projet, d'ailleurs, dans lequel la monarchie a échoué, notamment parce qu'elle n'avait pas tellement envie d'aller jusqu'au bout. Aussi,
qu'elle est très impuissante pour le faire. Très impuissante pour le faire.
Comme tu disais tout à l'heure, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, oui. Bien, je propose là pour le coup qu'on fasse vraiment la pause.